On va voir, sont enregistrés. Donc, attendez d'avoir le micro pour parler. C'est valable aussi pour les intervenants. Si vous avez envie de dire des choses, passez-vous le micro. Voilà.
Une petite précision pour les deux films. Donc, il y a un film, le premier est plus ancien que celui que vous venez de voir, qui est tout récent. Entre les deux, certaines espèces que vous avez vues sur le premier film n'existent plus, ont été éradiquées. Entre autres, les vaches que vous avez vues sur Amsterdam n'existent plus. Les mouflons, les moutons sur Kerguelen n'existent plus. Parce que petit à petit, on essaie d'éradiquer, quand c'est possible, les espèces qui ont été introduites par l'homme. Les rennes sont toujours là.
Mettez-vous là. Jean-Paul, Jérôme, allez hop. Je vous laisse venir par là, ce sera plus facile. Et puis le deuxième micro, qu'est-ce qu'il a? C'est toi qui l'as. Tu fais le service? Bon, c'est bien. Voilà. Oui, on peut peut-être déjà vous laisser la parole quelques minutes pour vous présenter. À tour de rôle. Allez, vas-y.
Donc Jérôme Poulenard, je suis universitaire à l'Université de Savoie, je suis prof de fac et je fais partie des scientifiques là, qui étaient en mission très récemment. Hein. Moi j'étais en mission à Kerguelen en novembre-décembre. Et vous avez vu Nina tout à l'heure, qui elle s'est occupée de moi pour que j'aille dans les bonnes cabanes et pour que je puisse faire mes manips très correctement. Donc comment ça se passe pour un scientifique? Vous avez vu que c'est des territoires qui sont gérés par une administration particulière, les TAF, dont je pense que tu parleras plus. Et l'activité scientifique, elle est gérée par une autre institution qui s'appelle l'IPEV, Institut polaire Paul-Émile Victor, c'est l'Institut polaire français. Et les scientifiques de différentes institutions, de l'université, du CNRS, français ou étrangers, répondent à des appels d'offres pour aller faire des activités scientifiques dans ces territoires. Et donc, il y a des activités scientifiques, on en a vu un certain nombre, qui sont de nature extrêmement différente, des activités qui sont plutôt en lien avec la biologie, avec la dynamique des populations. Hein. On l'a entreaperçu, mais il y a génétiquement des sujets très très intéressants parce qu'il y a des populations qui sont extrêmement réduites. Des programmes de géophysique, des programmes sur les pollutions atmosphériques, enfin des programmes divers et variés. Et puis voilà, on est accueilli pendant un certain temps, 2 mois en l'occurrence pour moi, parce que c'était juste une campagne d'été, des gens un peu plus longtemps, sont accueillis pour une mission scientifique au Trito de l'IPEV, accueillis dans les territoires australes et antarctiques français, à Amsterdam, à Kerguelen, à Crozet, et puis il y a un dernier territoire dont on n'a pas parlé, mais peut-être tu parleras un petit peu plus, qui est l'Antarctique, qui fait aussi évidemment partie des terres australes, et où il y a des activités scientifiques qui sont aussi très connues, évidemment les activités glaciaux. Hein. Mais il est aussi à noter quand même que dans ces territoires australes, c'est aussi une terre de science, à mon avis, très très importante. Voilà, donc une expérience de scientifique en accueil dans les terres australes.
Patrick Caron, donc mon métier c'est, je suis officier sapeur-pompier, et donc moi j'ai fait deux missions dans les terres australes, une première mission en 2008-2009 comme chef de district des îles Crozet, et en 2012-2013 chef de l'archipel des Kerguelen. Alors chef de district ça veut dire le représentant de l'État, nous sommes des personnes assermentées qui représentent donc le maire, on fait fonction de sous-préfet, c'est un arrondissement. Donc maire, officier de police, officier d'état civil, enfin compte, on a le cachet de la République, on est le seul sur tout le secteur. Donc en gros, chaque île est un arrondissement, et l'ensemble des arrondissements, donc on a dit Terre Adélie pour le pôle sud, les Australes, on a vu les îles, et ensuite on a le canal de Mozambique, avec également un chapelet d'îles entre Madagascar et l'Afrique, au-dessus de la Réunion. Et notre préfet, lui, la préfecture, les TAF, est à Saint-Pierre-de-la-Réunion. Donc ça veut dire que mon préfet était à 3 800 km de moi. Voilà. Voilà. Donc en tant que représentant de l'État, bien sûr, comme ça a été dit sur Amsterdam, on gère tout ce qui est ressources humaines, le personnel, la notation des personnels, les militaires, les plannings, les budgets, la responsabilité des secours, l'accord pour sortir ou pas en mission extérieure des bases, les pêches. Parce qu'autour de chaque île, il y a 200 000 marins. Un 1 000 marins, c'est 1 800, 1,8 km. Il y a quasiment, enfin, 200 km, 300 km d'eau française où on pêche. Donc il y a des bateaux de pêche. On gère également les liens avec ces bateaux, le contrôleur des pêches, contrôleur des douanes. Voilà, on représente l'État. Voilà, et ça pendant un an. Donc j'ai fait deux missions d'un an, un an, 13 mois sur chaque île. Et le détachement, parce que je suis fonctionnaire, donc détaché, c'est des missions de 16 mois entre la formation et puis ensuite les congés. Il y a une formation assez complète. Principalement, on l'a vu sur Amsterdam, qui est la plus petite base des Australes, mais problème de management, etc. Et puis, on est aussi officier de police judiciaire. Je ne suis plus aujourd'hui, hein. C'est vraiment pour la mission, avec une formation, parce qu'on peut être amené à effectivement avoir des problématiques avec des bateaux en escale ou autres. On a des bateaux étrangers aussi. Quand les Australiens arrivent à Kerguelen, ils sont 150 militaires. Il peut y avoir quelques petits problèmes. Donc, on a aussi ce rôle aussi d'officier de police judiciaire. Mais vous avez vu, c'est des petits groupes, hein, donc c'est quand même dans une bonne ambiance en règle générale. À 99% du temps, c'était plutôt agréable. Voilà, je te laisse te présenter.
Merci. Jean-Paul Gaspard, contrairement à Jérôme et Patrick, je n'ai rien de scientifique ou de maintien de l'ordre dans cette terre australe. Moi, j'ai mis la mare un peu plus bas, c'est-à-dire d'aller carrément en Antarctique. Parce que je fais partie du club des sept sommets, Seven Summits, comme on dit, c'est de faire les sept sommets des sept continents. Donc je suis plutôt un aventurier, j'en ai pas l'impression quand on me voit comme ça rapidement, mais c'est pas un métier, c'est plutôt une envie qui m'a pris il y a pas très longtemps de me faire un challenge, de faire les sept sommets des sept continents, c'est ce qui m'a amené en Antarctique, et de fait d'être ici ce soir avec mes deux collègues pour pouvoir répondre à quelques questions éventuellement sur ce continent qui est, contrairement aux terres australes françaises, vraiment inhospitalière. Parce que, bon, à part les quelques scientifiques, il n'y a aucun être vivant sur place. Voilà. Je laisse la parole à ceux qui ont peut-être des questions à poser. Bon, ben, je garde pour l'instant le micro, personne n'en veut.
Je voulais poser une question, pas pratique, mais d'organisation, parce que vous parlez d'aspect militaire. Quels sont nos moyens militaires là-bas et quels sont les moyens techniques dont disposent les militaires? Puisque apparemment, vous n'avez pas de bateau, vous n'avez pas d'autonomie, pas de moyens de transport.
Alors, il y a des choses qui peuvent se dire et d'autres qui ne peuvent pas se dire. Donc, je vais essayer de rester. Non, je plaisante. Donc, l'armée, effectivement, fournit un contingent aux terres australes antarctiques françaises qui ont, c'est un territoire, mais qui a très peu de revenus. Puisqu'ils sont, de par la loi, rapidement, un territoire en dehors de la communauté européenne. Au niveau de l'ONU, ils sont considérés comme un micro-État. Et le préfet d'État, donc celui qui était mon supérieur, est un administrateur supérieur, c'est-à-dire un peu comme un gouverneur, avec une certaine autonomie financière. Donc il doit trouver de l'argent, pas beaucoup de sous. Donc les pêches, c'en est une partie. La philatélie, c'en est un autre. Tout ce qui est taxes et autres droits de douane, c'en est un autre. Mais voilà, c'est cette partie-là. Et pour éviter d'alourdir la facture, les armées fournissent des contingents, ce qu'on appelle l'équipe État, donc le chef de district fait partie, pour permettre aux scientifiques et aux gens qui vont venir travailler et de vivre en sécurité. Donc c'est la partie État. Donc l'armée de terre va fournir tout ce qui est infrastructure, les routes, les bâtiments, l'entretien. Aide au secours, donc tout ce qui est vraiment le génie. Hein. L'armée de l'air va fournir tout ce qui est informatique, communication téléphonique interne, satellite. Il y a plusieurs niveaux de liaison satellite. Et puis la philatélie aussi, la poste dans les taffes sont situées par l'armée de l'air. Et ensuite la marine, c'est les pompiers, donc le chef pompier c'est un marin pompier et les autres pompiers c'est des pompiers volontaires automatiquement, quasiment tout ont des pompiers volontaires. Les bateaux, parce qu'à Kerguelen on a deux embarcations maintenant, enfin, ils ont, j'y suis plus. Les bateaux, la sécurité, je l'ai dit, au niveau des marins, et puis l'énergie, hein, fonctionnement des groupes électrogènes, des éoliennes, etc. Donc chaque armée a ses fonctions de sécurité et pour pouvoir vivre sur place. À côté de ça, effectivement, il y a d'autres installations qui ne sont pas forcément directement militaires, mais qui peuvent servir à la défense ou la coopération internationale, entre autres pour le contrôle des pays qui ne respecteraient pas la ratification contre les essais nucléaires. Donc il y a des capteurs qui écoutent ce qui se passe dans la Terre, qui captent ce qu'il y a dans l'air, et ces infrastructures doivent être sécurisées, bien sûr. Donc contrôle des essais nucléaires, éventuellement, certains pays, on pense à la Corée du Nord, on peut penser à d'autres pays. Et ensuite, on a le CNES qui, lui, a des antennes satellites et qui, lui, suit les satellites militaires français, voire conventionnés avec d'autres pays, et entre autres, qui suit également la fusée Ariane quand elle quitte le secteur de Kourou, c'est Kerguelen qui prend la suite. Donc il y a des installations comme ça qui sont protégées. Et récemment, donc, lors de notre dernière mission, nous avons installé une parabole pour le système de géolocalisation, je ne voulais pas dire le mot américain, géolocalisation par satellite, Galileo, donc, qui est installé à Kerguelen également, sur une terre française, puisque vous savez que Galileo doit être installé uniquement sur une terre européenne, et la France ayant un gradient très important en partant de Saint-Pierre-Miquelon jusqu'au pôle sud. Donc on a plein d'antennes comme ça pour l'Europe, pour le système de navigation. Donc l'armée, ce n'est pas des armées avec des fusils, mais c'est des armées pour permettre de travailler en sécurité sur les districts. Plus les bateaux, les patrouilleurs austro qui surveillent les zones de pêche et qui boutent hors de nos zones les bateaux étrangers qui viennent nous voler nos poissons et nos langoustes. Voilà. Il y avait une autre question.
En attendant qu'il y ait une autre question, je me posais la question, est-ce qu'on tourne toujours dans le même sens avec le bateau, en fait ? Et si oui, pourquoi ?
Oui, on tourne dans le même sens. C'est un problème de courant, hein, et d'économie d'énergie, principalement, parce que vous avez dit qu'il n'y avait plus beaucoup de sous. On compte tout, quoi, hein. Donc il y a les courants, et puis aussi il y a la quantité de fret à livrer. Et c'est vrai que Kerguelen, c'est la plus grosse base. Crozet est avant, mais on finit par la plus petite base où il y a le moins de fret. On a beaucoup parlé de fret à livrer, mais aussi tout ce qui est récupéré. Aujourd'hui, l'État traite tous les déchets. Tout est ramené à La Réunion, voire à Métropole. Ça coûte un argent pas possible. Mais dans le passé, nos anciens, ils avaient plutôt tendance à mettre un peu dans la mer. Donc maintenant, c'est fini. Donc voilà. C'est toujours le même sens de circulation. Ouais. Vous ne posez pas la question si vous pouvez aller là-bas. Ah, voilà. On a vu les touristes. La dame que vous voyez là, donc, qui a perdu son mari, là, c'est une touriste. Donc, à ma première mission, il y avait entre 20 et 23 touristes par rotation. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Il y en a 8 à peu près. Donc, il y a à peu près 2 à 3 ans d'attente. Mais effectivement, il y a des touristes qui sont sur toutes les rotations du Malon du Fresne. Et qui s'inscrivent, il y a une liste d'attente, ils sont rappelés au fur et à mesure. Il y a un minimum de visite médicale quand même pour faire ce voyage, et puis c'est super intéressant, quoi.
Et le coût actuel pour les touristes, parce qu'il faut quand même le dire, c'est 8000 euros pour la rotation, donc la rotation dure un mois, et donc 8000 euros, je crois 16000 euros s'ils veulent une chambre seule sur le bateau. Ça comprend beaucoup de rotations hélicoptères, hein. Vous avez vu que toutes les rotations se font en hélico entre le Marion Dufresne et puis les territoires, et très honnêtement les touristes sont bien soignés, les TAF mettent un guide à leur disposition, ils sont presque prioritaires pour toutes les rotations, donc ils ont un parcours qui est quand même très très intéressant. Alors je ne sais pas si ça vaut 8000 euros, ça c'est un débat. Évidemment, tout est compris dans le prix. Hein. Ça, c'est vrai aussi pour tous les gens qui montent sur le Marion. Et bon, très honnêtement, pour en avoir discuté avec les gens qui ont fait ça lors de la dernière mission là en janvier, bon, je crois qu'ils y regretteraient pas leur argent parce que c'est effectivement quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà.
On se rapproche des prix pratiqués par une grande marque de croisière, de yachting, qui fait de la publicité en ce moment à la télé. Là. C'est pas le même standing, mais moi, ce que me disaient les touristes, c'est qu'ils ont l'impression de faire partie de l'équipe. Ils sont au milieu des scientifiques, au milieu des marins. Rien n'est fermé dans le Marion. Vous pouvez monter à la passerelle quand vous voulez, ils font partie de l'équipe, quoi. Et ça, pour eux, c'est une vraie aventure.
Vous avez dit tout à l'heure que les animaux qui ont été importés par les hommes à l'origine ont été éradiqués depuis. Est-ce que ça représentait un danger pour l'écosystème de l'île ? Est-ce pour ça qu'ils ont été éradiqués ?
Je te passerai après la parole si tu veux. Juste, moi j'ai pas de chance. Je suis celui qui a fermé la serre de Crozet. Hein, j'ai connu les légumes à Crozet, j'en ai mangé. Et le préfet m'a dit, maintenant à Hon, il faut fermer la serre. Parce qu'on plante des choses, il y a les pissenlits qui peuvent sortir, il y a l'histoire des limaces, il y a plein de choses, hein, qui peuvent. Voilà. Et ensuite, quand je suis arrivé à Kerguelen, il m'a dit il faut finir de tuer tous les moutons, Il faut trouver des mouflons, les tuer. Donc voilà, j'ai eu des missions un peu compliquées parce qu'il faut expliquer ça aux gens, parce que les moutons ont mangé la viande, etc. Donc effectivement, c'est il en parlera mieux que moi, mais c'est un écosystème qui est très instable. On parle de ça, mais il y a les rats, les lapins sur certaines îles. Et on l'a vu quand on a parlé des cochons sur l'île aux cochons, ils mangeaient les manchots, donc il y a les œufs. Voilà, donc effectivement, on peut rapidement se trouver dans une situation où on peut faire disparaître une espèce, hein, que ce soit une plante ou un animal d'ailleurs. Et donc c'est important. Maintenant, les rennes, on en a parlé tout à l'heure avant de venir, il y a 4000 rennes, c'est grand comme la Corse, ça semble très compliqué à éradiquer. Les lapins, ça semble très compliqué. Il y a des chats, Kerguelen, ça semble très compliqué. Mais il y a des commissions d'éthique qui se réunissent. Les décisions ne sont pas prises comme ça. On fait partie en plus d'organisations internationales où il y a d'autres pays, il n'y a pas que la France, hein, qui prennent des décisions. Mais c'est très compliqué et surtout, ça coûte cher également, bien l'argent. Mais tu veux en dire un mot?
Oui, alors ces îles australes, c'est des modèles d'écosystèmes qui ont été perturbés assez récemment, hein, il y a quelques dizaines d'années, par l'introduction d'espèces. Donc la problématique des espèces invasives est une problématique qu'on rencontre ici. Hein. Bon, tout le monde a vu la renouée du Japon sur le cours d'eau, quoi, avec les problématiques d'espèces invasives. Et là, on a des modèles réduits qui sont particulièrement intéressants parce que des espèces ont été introduites à des dates bien connues, avec souvent des populations qui sont très restreintes. Pour le chat, c'est quelques individus, hein, à Kerguelen. Donc un pool génétique qui est extrêmement réduit, et puis des animaux qui sont dispersés, qui ont changé leur activité. On a introduit des chats à Kerguelen pour manger des souris qui avaient été introduites précédemment. Les chats se sont réadaptés, ils n'ont pas tellement chassé les souris, mais ils ont chassé un petit peu les lapins, mais surtout les oiseaux. Et donc, en peu à peu, l'ensemble du système écologique a basculé complètement vers un système qui n'est pas du tout un système, qui est le système originel. Donc, hormis quelques îles qui sont un peu sur lesquelles les animaux ne sont pas allés, on a des écosystèmes qui sont profondément modifiés. À Kerguelen, initialement, il y a une vingtaine d'espèces de plantes. Aujourd'hui, il y a 170 espèces. Donc vous voyez, il y a 150 espèces qui sont en fait des espèces introduites. Dans les images, on voit plein de pissenlits, plein de taches jaunes. En fait, évidemment, ça, c'est une espèce qui est tout à fait récente et qui est en pleine dynamique. Et donc, évidemment, on a une modification de l'écosystème et de son fonctionnement par l'introduction de ces espèces. Alors, la réponse de ça, c'est de dire, c'est une réponse vraiment compliquée, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de revenir à un espèce d'état initial? En fait, ça apparaît en grande partie illusoire, parce que, certes, il y a le mouflon, il y a le renne, mais il y a aussi plein de modifications fondamentale de l'écosystème, de ses flux, des bactéries, des champignons, et donc on n'arrivera pas à revenir à un espèce d'état initial. Donc après, il y a vraiment des décisions de gestion, ça c'est des choix. Est-ce qu'on doit éliminer au moins une grande partie des animaux, au moins les animaux en bout de chaîne, pour essayer de changer les choses? Bon voilà, pour le mouflon, la décision a été prise, pour les vaches à Amsterdam. Actuellement, le débat, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qu'on doit faire sur la population de rennes. Les Anglais en Géorgie ont décidé d'abattre toute la population de rennes. Pour l'instant, en France, il y a une hésitation. A priori, les rennes ne seront pas abattues parce que techniquement, ça paraît compliqué pour un résultat qui est en plus pas forcément très très sûr. La vraie problème à Kerguelen, c'est les lapins. Là, par contre, leur effet sur la végétation, sur les sols, est évidemment très très forte. On a un système érosif qui est très 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 marqué, on a beaucoup d'érosion, ça se voit pas trop sur les films, hein, parce que y a aussi un choix esthétique de pas forcément toujours présenter les espaces dégradés, mais la colonisation par le lapin pose un véritable problème. Bon, gestion des espèces invasives, c'est un problème ici, et c'est vraiment particulièrement un problème ici. Alors par contre, c'est intéressant scientifiquement comme modèle d'évolution d'espèces.
Non, c'était juste en fait pour avoir une petite précision sur ce que vous appelez géographiquement la ligne de confluence. Enfin, je crois que c'est ça le terme exact. Hein,
oui, qui fluctue d'ailleurs. Mais en gros, c'est le, le lieu où se rencontrent les eaux chaudes qui viennent d'Équateur et puis de la Réunion, et des eaux froides qui viennent du sud. Et là, il y a une chute rapide de température. On part à la Réunion à une eau à 25-26 et on arrive à une eau à entre 5 et 10 degrés. Donc là, effectivement, il y a des... Vous savez, la nature, c'est un rééquilibrage thermique permanent, donc ça crée des vents, des courants, des vagues, et c'est une zone qui se ressent déjà quand on sort dehors. Hein. En quelques heures, on peut être en t-shirt, et puis on rentre boire un café ou autre chose, et on ressort, et là, on remet la petite laine. Quoi, hein. Voilà. Et sachez qu'à Kerguelen, on a des plongeurs, des militaires, des marins, on a des plongeurs, entre autres pour... aider les bateaux quand ils ont des étrilles dans les hélices ou autres, ou faire des reconnaissances, ou récupérer du matériel scientifique au fond des lacs, par exemple. On a des plongeurs, et l'eau à Kerguelen, l'hiver, elle est à 0 degré, quoi, voire moins 1. Donc voilà, et la convergence, c'est ça. C'est cette ligne qui ondule, hein, qui fluctue, qui ondule, et c'est ce qu'on appelle la convergence.
Je peux juste rajouter quelque chose, c'est qu'évidemment, cette convergence, cette association de masses d'eau froide et d'eau chaude, c'est aussi des modifications sur les densités des eaux. Et donc, évidemment, on a des phénomènes de remontée de sels minéraux qui expliquent une productivité de l'écosystème extrêmement forte et qui expliquent l'abondance de mammifères marins qui vivent sur cette ressource productive en termes de flux de nutrition qui est elle-même liée à cette zone de convergence. Donc, un phénomène thermique qui induit ensuite un phénomène de changement de flux et donc le vivant qui y répond en ayant une productivité très importante et donc des mammifères en bout de chaîne.
On n'a pas vu dans le reportage, il y a donc des orques qu'on a vus, il y a des dauphins aussi à Kerguelen, Commerson, et puis on a des baleines, hein, des baleines à bosse, des baleines australes aussi, on n'a pas vu dans le reportage, mais effectivement il y a une vie importante.
Pour des jeunes intéressés par l'aventure, qu'est-ce que vous conseillez au niveau de démarche ils peuvent partir faire des missions en service civique, vous avez plusieurs types de propositions à faire.
Alors il y a deux sites internet incontournables. Pas de pub, hein. L'ETAF, donc TAAF.fr et IPEV. Donc c'est là que tous les avis de vacances sont mis. Mais dans le cursus scolaire et de formation des jeunes, effectivement, si on s'oriente vers une spécialité, c'est souvent les laboratoires qui financent ces projets-là. Donc il y a des doctorants, il y a effectivement des gens qui vont faire uniquement un service civique, hein, l'État, ils prennent des services civiques également, mais alors soit c'est par le côté universitaire, vous en parlez mieux que moi, soit effectivement, il y a des cuisiniers aussi, hein, il y a des cuisiniers, il y a des maçons, il y a un peu tous les métiers, hein, mais c'est vrai que sur ces deux sites, vous avez vraiment un maximum d'informations. Maintenant, pour la partie purement universitaire, il y en a qui est mieux passé que moi.
Bon, il faut avouer que il y a beaucoup de gens qui en rêvent, hein, notamment les gens qui sont plutôt en écologie, notamment les ornithos. C'est le paradis des ornithos, hein, faut être clair. Sur la population des jeunes étudiants très branchés écologie et en ornithos, la concurrence est forte. Sur d'autres disciplines, notamment les disciplines qui sont plutôt associées aux sciences de la Terre, en géophysique ou sur l'étude, on a vu l'étudiante. On ne dit pas étudiante, hein, je sais pas. Et voilà. Pour moi, c'est une étudiante, en tout cas, qui vient étudier la pollution atmosphérique. Donc ça, c'est typiquement des activités où, par contre, là, il y a relativement moins de demandes. Voilà. Bon, c'est évidemment très, très attirant. S'il y a des jeunes qui sont branchés pour ces territoires-là, il faut qu'ils sachent que ça existe et qu'ils se lancent à fond, mais en étant conscients que bah, voilà, ça ne marche pas toujours. Mais bon, il y a les terres australes, mais il y a aussi la Vanoise. Après, pour l'aventure, ça c'était l'aspect scientifique, mais pour l'aventure, il y a des gens qui choisissent à tout âge de choisir de faire de l'aventure, qui n'ont pas besoin d'une formation particulière et qui font un choix d'assumer une aventure.
Alors, moi j'aimerais bien savoir, je peux lui poser une question ? Comment on fait ? Parce qu'il faut savoir que le pôle Sud, c'est le traité de Washington et ça n'appartient pas aux États. Ils sont en charge d'un bout. Nous on a un bout de camembert. Hein. Camembert, et donc c'est démilitarisé, donc tous les bateaux militaires en dessus du 60e sud, ils ne peuvent pas accéder, et il faut un accord d'un des pays signataires du traité de Washington, il y en a plein, pour avoir l'autorisation d'y accéder. Ça veut dire que le pays, les USA par exemple, ils font payer une somme assez importante pour de l'autorisation, mais en même temps ils s'engagent, s'il y a un problème, à assurer le secours, etc. Donc comment tu as fait et par quel biais tu es passé pour aller faire ta mission, alors toi ou l'organisation qui a organisé la chose pour faire ta mission en Antarctique?
J'ai fait comme je fais à peu près d'habitude, je me suis un peu débrouillé tout seul. Internet existe heureusement, sinon j'aurais peut-être pas eu la possibilité d'aller aussi loin au moment où j'en avais envie, puisque c'était ce moment-là et pas un autre. Et effectivement, à force de chercher, il y a quelques organismes dans à peu près tous les pays qui font de la montagne, qui peuvent organiser ce genre de choses, mais incontournablement, voilà, je vais y arriver, on tombe sur les États-Unis, sur un organisme qui s'appelle ANI, et c'est eux qui ont le monopole pour aller faire des expéditions sur l'Antarctique. À l'Antarctique, il n'y a pas de tourisme, c'est essentiellement sportif. Il n'y a pas beaucoup d'êtres vivants, à part peut-être quelques manchots sur le bord, côté nord, on va dire, enfin, si on peut situer le nord ou le sud. On peut. Bon. Et par Internet et par des mails, en anglais essentiellement, j'ai pu rentrer en contact avec cet organisme et en plusieurs mois organiser mon expédition. Donc ça n'a pas été facile parce que il faut énormément d'autorisation, des questionnaires à remplir, médicaux, sportifs, historiques. Il faut monter patte blanche. Et une fois que c'est acquis, c'est acquis. Mais ça, c'est bien le système américain. C'est très long, mais une fois que c'est fini, c'est sûr, on s'en va. Et après, on a l'équipement, on l'a pas. Il faut se préparer mentalement beaucoup de temps à l'avance. Moi, je n'étais pas mon premier sommet, donc je savais à peu près où j'allais. Enfin, je pensais savoir où j'allais. Et j'étais un peu surpris quand même, parce que c'est vraiment une terre extrême, et il n'y a pas grand-chose à voir, à part de la glace et puis de la neige. Je crois que c'est 98% du territoire qui est recouvert de glace sur une épaisseur moyenne d'un kilomètre 6, et je crois qu'il y a même des profondeurs qui atteignent pas loin de 5000 par endroit. Donc il y avait rien par le froid, le vent et la promiscuité, on est livré à soi-même, et puis c'est le mental et l'envie de faire quelque chose d'exceptionnel à un certain moment de sa vie. Alors ceux qui sont intéressés pour essayer de faire cette expédition, je pourrais éventuellement leur donner quelques tuyaux, mais il faut savoir que c'est pas chose facile quand même, surtout en plus à mon âge. Donc j'aurais dû m'y prendre un peu plus avant pour le faire. Mais enfin, j'ai réussi, c'est l'essentiel.
Pour la France, c'est l'État qui délivre cette fameuse autorisation, enfin qui délivre, qui peut délivrer, mais qu'en délivre quasiment jamais. Parce qu'il y a de tels risques que les États-Unis ont une logistique beaucoup plus importante que la France sur le pôle sud. Donc je crois qu'il y a eu Laurence de la Ferrière qui a eu une autorisation il y a quelques années. Mais c'est très, 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 très rare d'en avoir une par la France. Donc les États-Unis.
Le 23e à avoir eu l'autorisation. En fait.
Voilà, le 23e. Voilà.
Oui, c'est ma petite gloire, 23e, sur français, avoir atteint le mont Hinson en Antarctique. Je m'énorgueillis tout seul, je me fais plaisir, vive moi, merci.
Éloigné de tout, en cas de problèmes médicaux, quelles ressources avez-vous?
Les australes, après, alors pour les australes, 3800 km de la Réunion, oui, donc on fait le 18, ça marche pas. Hein. Donc on compte sur nous-mêmes d'abord. Il y a un hôpital sur chaque base, entre guillemets, un dispensaire, on va dire, avec quand même des moyens corrects, avec un bloc opératoire, avec de quoi faire des radios, de quoi faire les primo-analyses de sang, hein, et puis avec une télémédecine. Avec la métropole, donc sur chaque base, deux médecins à Kerguelen, un médecin à Crozet, un médecin à Amsterdam, qui sert pour les personnels de la base, pour les bateaux en détresse ou en transit également, et ensuite, s'il faut rapatrier, donc là, c'est le chef de district qui peut demander ou réquisitionner tout bateau dans sa zone, parce qu'on est en connaissance en permanence des bateaux dans la zone, un bateau de pêche, un bateau militaire, pour retourner à La Réunion. Ça veut dire... C'est pour ça que l'état de santé des gens qui vont séjourner plusieurs mois sur les bases est très très strict et on n'en voit pas des gens qui ont des problèmes de santé sur ce type de mission. Alors, plus au sud.
Ça rejoint ce que disait Patrick. Quand on part là-bas, on part en bonne santé puisque tout est prévu à l'avance. Enfin, théoriquement, on doit être en bonne santé et on l'est. Mais on n'est jamais à l'abri d'un accident ou d'un petit pépin. Ça n'arrive pas souvent. Quand on arrive sur le continent antarctique, Il y a une grande base vie, bon, là, il y a une grande infirmerie, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de problèmes. Ils ont comme sur place deux bimoteurs pour amener les gens soit carrément au pôle sud pour ceux qui veulent faire de la peau de phoque ou au camp de base du Mont Vinson. Le camp de base qui est pas très loin du Mont Vinson, enfin il faut 5 jours pour faire l'aller-retour. Là il y a une petite infirmerie, mais ce n'est qu'une infirmerie. Ensuite sur le trajet il y a des les Américains appellent ça des rangers, c'est-à-dire c'est des montagnards de haut niveau qui sont en permanence entre le camp de base et le sommet, qui sont là pour nous rapatrier en cas de pépin. Alors bon, des crevasses, il n'y en a pas énormément, puis on passe toujours à côté. Maintenant, on peut avoir un problème de santé pas prévu. Bon, on essaie de se faire redescendre comme on peut.
Par l'intensité des relations et des sentiments exprimés à la fin du second film entre les membres de l'équipe. Est-ce que des scientifiques, côté écologie sociale par exemple, ont étudier et publier donc des recherches sur la façon dont se structurent les rapports à l'intérieur de ces équipes qui sont dans un milieu absolument extrême, exceptionnel.
On ne pouvait même pas imaginer ce qu'il a dit, c'est rien. C'est la première chose qui m'a effectivement surprise, c'est les liens. Parce que quand on arrive, effectivement, on relève des gens qui partent. Donc on voit tout de suite ce qui se passe. On voit des gens pleurer, des gens qui tremblent, des gens qui refusent de monter en hélico, il faut les porter dans l'hélicoptère pour les faire monter. Et ce qui m'a choqué presque en arrivant, c'est qu'il y avait un militaire qui était là depuis un an, qui était papa de 2 petits-enfants, dont un qui était né en son absence, et il voulait pas partir. Là, j'ai dit, mon garçon, qu'est-ce que tu fais là si ça c'est particulier, quoi. En disant que ce que j'ai vu, moi, c'est des gens qui ont vécu sur une base qui est organisée, ils ont tous leur chambre individuelle, ils ont l'eau chaude, ils mangent très bien, ils ont des bonnes conditions. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes choses qu'il y a 20, 30 ou 40 ans, où c'était des dortoirs, où c'était des conditions beaucoup plus rudes, etc. Donc effectivement, il se crée des choses, des liens. Ça a été dit dans le reportage, on se sent loin de tout. On n'a plus de factures qui arrivent. On n'a plus les problèmes que certains ont laissés en métropole. Il y en a même certains qui laissent des gros problèmes en métropole, parce que quand on voit les gendarmes à l'arrivée du bateau, c'est que quelqu'un... Voilà. Et c'est vrai, quand il y a sentiment de... Moi, je vous le dis franchement, Kerguelen, c'est une grosse base, il y a du travail quand même. Hein. Mais ces deux années-là, c'est les deux années de ma vie où j'étais le moins stressé, et où même s'il y avait des problèmes, et où j'ai... Bon, la jeune, là, sur Amsterdam, elle exagère un peu, quand il n'y a pas d'heure, etc. Si, il y a des heures, on travaille, on se lève le matin, il y a des missions, il y a des choses à faire quand même. Mais c'est un sentiment de bien-être incroyable, hein, et sans ni boire ni fumer quoi que ce soit de particulier, de bien-être, sans médicaments. D'abord, il y a très peu de microbes. Moi, je suis assez fragile au niveau ORL. Pendant ces deux années-là, je n'ai pas pris un médicament. Par contre, au retour, effectivement, on est immunodéprimé puisqu'il y a très peu de microbes, donc le corps ne lutte pas. Donc, au retour, c'est un peu compliqué. Donc, il y a tout ça, tous ces phénomènes-là qui font. Et puis, les relations humaines. Vous avez vu les premières émissions de télé-réalité où on enfermait des gens dans une maison. Là. Au bout de quelques jours, ils pleurent tous, ils s'embrassent et tout. Ça paraît fou, mais il y a des études qui ont été faites. Je passe la parole après. Il y a une docteure en sciences humaines qui a fait... c'est en ligne, sur Internet. Il y a plusieurs études qui ont été faites. Et c'est vrai que les rapports sont très forts, très particuliers. Et les départs sont des vrais déchirements, mais qui peuvent... Moi, j'ai vu des gens s'emmurer dans un silence pendant 15 jours parce que ses amis sont partis. Et les nouveaux arrivants, les méchants qui arrivent, l'équipe toute fraîche, il y a entre ceux qui étaient là depuis 6, 7, 8 mois et les nouveaux, surtout l'hiver, on sent que ce n'est pas la même équipe, c'était mieux avant. Voilà. Et c'est vraiment très parlant. Il y a des études qui ont été faites, on passe d'aller ce soir, mais effectivement, ça a été étudié et il y en a des phénomènes très particuliers qu'on peut retrouver dans des endroits clos comme dans l'espace, etc. Voilà.
Oui, je veux juste rajouter qu'effectivement, on trouve sur Internet un travail qui est plutôt psychologique, qui est plutôt la psycho. Et un travail qui est plutôt de la socio, et notamment sur l'analyse typologique des différentes missions, qui passe à peu près toujours par un cycle qui est à peu près bien connu, et qui a été bien déterminé, sur la relation entre les individus et sur le rapport à l'autorité. Donc une typologie d'évolution du groupe qui a été étudiée et qui, je crois, est effectivement tout à fait intéressante. Je rajouterais aussi qu'il serait aussi intéressant de se pencher sur, sur la relation entre les organisations, qui est aussi un autre aspect intéressant. Hein, entre, voilà, c'est un espace loin. On a vu que c'est compliqué. Il y a le rôle du chef de district. Il y a son rapport avec son autorité qui est à la Réunion. Il y a d'autres institutions, l'Institut polaire. Il y a d'autres institutions, les réserves. Et donc, toutes ces institutions ont aussi un jeu institutionnel complexe, un peu éloigné. Et à mon avis, ça mériterait aussi d'être étudié de manière, par les sciences sociales. Quoi.
J'ai pas dit, il y a Météo France, il y a plein d'autres organismes hein, aussi. Et avant, en gros, rapidement, les TAF, c'était le scientifique et l'État. Donc, après l'IPEV, il y a une séparation. Et effectivement, c'est un travail de coordination qui est assez complexe. Rapidement, on rappelle tous, on est suivi hein, par un psy, ceux qui font un an. Hein. Avant de partir, on passe un jour et demi avec lui, c'est assez horrible. Et donc, on est suivi tous les 3 mois par le médecin, on doit remplir des fiches, des questions, des trucs. Et dans les statistiques, les tentatives de suicide ou les suicides, est-ce qu'il y en a aussi, les dépressions, et on se rend compte assez, de façon assez incroyable que c'est le district le plus, le moins difficile au niveau climatique, c'est Amsterdam. Amsterdam, où il y a le plus de phénomènes de dépression. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde? Est-ce que parce qu'il fait beau et on a l'impression d'être plus proche de la métropole, mais pourtant c'est plus petit? En tout cas, sur Kerguelen, il y en a beaucoup moins. Sur Crozet aussi, et sur Atterham, il y en a un peu plus. Quoi. Voilà. Voilà, voilà. Mais c'est, à vivre, c'est quand même particulier. Et il y a des phases. Hein, moi, je les ai vécues. Hein, il y a des phases. On m'avait dit, j'y croyais pas. Les premiers mois, c'est comme ça. Après, les gens vont se révéler. Les vrais caractères vont ressortir. Bon, et c'est pas non plus. Mais il y a quelques individus qui sont passés à travers les mailles du psy, on les retrouve au bout de 6 mois, en gros. Voilà. Sans psy, mais on les retrouve quand même. Voilà. Bon, sur 150 personnes l'été à Kerguelen, ça concerne 2 ou 3 personnes qui, on se rend compte qu'elles n'ont rien à faire là. Donc, un des pouvoirs du chef de district, c'est de les remettre sur un bateau et de les renvoyer chez eux. Quoi. Voilà.
Oui, pour terminer et pour confirmer ce que viennent de nous dire nos collègues, dans le cas de figure qui confirme le fait d'aller faire des sommets, le temps est beaucoup plus court parce qu'on part pour 1 semaine, 15 jours, voire 3 semaines, mais le résultat est le même. Les gens qui font la même chose au même endroit, il y a une certaine promiscuité, il y a quand même une hiérarchie. Bon, nous, on a besoin de psy pour partir parce que sinon, ils nous empêcheraient d'y aller déjà. Mais il y a des guides et c'est eux qui dirigent un peu les équipes. Mais les gens sont tous solidaires les uns des autres. Personne ne se connaît, mais en l'espace d'une journée ou deux, n'importe qui peut avoir un problème. On se connaît tous, quoi, sans se connaître. Et à la fin, c'est pareil, c'est la fête. Et quand on se quitte, il y a un petit quelque chose. Et pourtant, on n'est resté que 15 jours ensemble. Donc le fait de vivre la même chose au même endroit, au même moment, ça crée des liens. Et ça, c'est bon. Il y a des études qui ont été faites, comme l'ont dit mes deux collègues, mais moi, je l'ai ressenti, pas qu'en Antarctique d'ailleurs, sur d'autres sommets aussi. Voilà, ça c'est juste pour confirmer ce que disaient Patrick et Jérôme. Ben, merci de votre attention. J'ai le micro, donc j'en profite pour placer le dernier mot. Merci d'être venu, c'est très gentil de votre part. Et j'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions de manière cohérente et intelligente.
Tout à fait, merci. Donc merci à vous trois et je vous invite au prochain café qui est la date au mois de mai où nous parlerons du Big Bang avec d'éminents spécialistes.